Je vais aujourd'hui continuer la série que nous avons commencée sur Hébreu. Je ne vous cache pas que je suis un peu fatigué, mais accrochez-vous parce que le texte est difficile. Il est, on va dire que la dernière fois que j'ai entendu un message sur le sujet, je pense que c'était Michel qui l'a prêché il y a... Je n'étais pas encore à l'église, vous voyez, c'était il y a 7-8 ans. Voilà, c'est un texte difficile, nous avons parlé de repos et nous verrons que parfois il y a du bon repos et parfois il y a du mauvais repos. Eric, tu veux venir m'aider dans la lecture ce matin? Nous allons lire, avant de commencer, le message, Hébreux 5, les versets 11 au chapitre 6, verset 20. Hébreux 5, 11, verset 20 au chapitre 6, verset 20.
Nous avons beaucoup à dire à ce sujet et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Alors que vous devriez avec le temps être des enseignants, vous en êtes au point d'avoir besoin qu'on vous enseigne les éléments de base de la révélation de Dieu. Vous en êtes arrivés à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or celui qui en est au lait est inexpérimenté dans la parole de justice, car il est un petit enfant. Mais la nourriture solide est pour les adultes, pour ceux qui, en raison de leur expérience, ont le jugement exercé à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. C'est pourquoi, laissant les bases de l'enseignement relatif au Messie, tendons vers la maturité, sans avoir à reposer le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de l'enseignement concernant les baptêmes et l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Ce que nous ferons, si Dieu le permet. En effet, ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté aux dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et aux puissances du monde à venir, et qui pourtant sont tombés, il est impossible de les amener une nouvelle fois à changer d'attitude, puisqu'ils crucifient de nouveau pour eux-mêmes le Fils de Dieu et le déshonorent publiquement. Lorsqu'une terre arrosée de pluies fréquentes produit des plantes utiles à ceux pour qui elle est cultivée, elle reçoit de Dieu sa part de bénédiction. Mais si elle produit des ronces et des chardons, elle est jugée sans valeur, bien près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Mais même si nous parlons ainsi, bien-aimés, nous sommes convaincus qu'en ce qui vous concerne, vous avez la meilleure part, celle qui est favorable au salut. En effet, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et le travail de votre amour. Vous avez démontré votre amour pour son nom par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore aux saints. Et nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Ainsi, vous ne vous relâcherez pas, mais vous imiterez ceux qui, par la foi et la patience, reçoivent l'héritage promis. Lorsque Dieu a fait la promesse à Abraham, comme il ne pouvait pas prêter serment par plus grand que lui, il a juré par lui-même, en disant, certainement, je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance. C'est ainsi qu'après une attente patiente, Abraham a obtenu ce qui lui avait été promis. Or, les hommes jurent par plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à toute contestation. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer plus clairement encore aux héritiers de la promesse le caractère irrévocable de sa décision, est intervenu par un serment. Ainsi, par deux actes irrévocables dans lesquels il est impossible que Dieu mente, nous sommes puissamment encouragés, nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre solide et sûre de l'âme. Elle pénètre derrière le voile, là où Jésus, établi grand prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek, est entré pour nous en précurseur.
Merci Eric. Donc ce passage nous parle, ce passage nous interpelle, il est difficile. Le texte est difficile et nous sommes sans doute devant un texte les plus difficiles de toute la Bible. Et j'aurais bien aimé le sauter, mais bon, comme je passe au travers de l'Épître aux Hébreux, je suis obligé de l'exposer. Pourtant, le sujet est très grave. Tu peux mettre. Et nous ne pourrons donc pas le survoler, et je serai obligé parfois d'aller dans le détail, car les conséquences pourraient être graves sur une mécompréhension de celui-ci. Même si je pense que vous avez tous eu des personnes autour de vous qui ont manié avec brio des menaces sans conséquence. Mes parents, parfois des professeurs, ont proféré des menaces graves qui n'ont jamais mis à exécution. Des menaces irréelles qui ne sont ni inquiétantes ni prises au sérieux. Ces personnes ont d'ailleurs un problème avec l'autorité, mais c'est un autre point. Pourtant, si vous deviez accepter ce matin et croire une seule chose, c'est que Dieu ne fait jamais cela. Quand il profère une menace ou un avertissement, une mise en garde grave, avec des conséquences dramatiques, sachez que ces menaces ne sont pas en l'air. Et si la chose arrive, les conséquences s'appliqueront. Dieu n'a pas de problème avec l'application de ses jugements. Toute l'histoire d'Israël nous le démontre. Dans un tout autre domaine, certains parents, certaines personnes dans notre entourage nous ont fait parfois des promesses qu'elles n'ont pas tenues. Ces personnes sont peu dignes de confiance. Vous le savez, vous émettez des doutes sur chaque parole de leur bouche. Pourtant, il vous est peut-être arrivé de généraliser votre scepticisme envers d'autres personnes, elles, par contre, dignes de confiance. Comme moi, parfois, j'aime le dire dans le cadre de mon travail, je n'ai confiance en personne. Ce matin, si vous deviez accepter une autre chose, ça fait deux, je sais, mais bon, je tente. C'est que Dieu n'est pas du tout comme ça non plus. Dieu tient toujours ses promesses. En quelque part, ce matin, je vous invite à combattre toute notre vie pour accepter et vivre ces deux vérités qui font combattre l'incrédulité qui veut nous amener à être irrémédiablement perdus. Ce combat pour la foi en Dieu, dans ses menaces et ses prises de conscience et sur ses promesses, est un combat pour notre vie avec Dieu pour toujours. C'est un combat pour notre salut. Si vous ne comprenez pas ce combat, c'est que peut-être vous êtes comme les destinataires de cette épître. Il est temps de vous réveiller, car peut-être un jour cela sera trop tard. Ce matin, je vous invite à découvrir deux étapes vers la maturité spirituelle. L'étape numéro un, croire dans les mises en garde de Dieu, un garde-fou contre la chute. Et l'étape numéro deux, qui sera croire dans les promesses de Dieu, un garde-fou contre le découragement. Étape numéro 1. Croire dans les mises en garde de Dieu, un garde-fou contre la chute. Dans le contexte de l'Épître aux Hébreux, ce passage arrive après qu'on vient d'exalter la supériorité de Christ par rapport aux anges, par rapport à Moïse, par rapport à la loi. Et après avoir montré le mystère de son incarnation, celui-ci veut nous amener vers un sujet difficile. Pourtant, avant de passer à ce sujet difficile, à savoir que Jésus-Christ est ce nouveau souverain sacrificateur, inaugurant un nouveau culte, il fait une description peu glorieuse de ces chrétiens, je vais mettre entre guillemets, à qui il s'adresse. Verset 11, vous êtes devenus lents à comprendre. Verset 12, vous devriez avec le temps être des enseignants. Vous en êtes au point d'avoir besoin qu'on vous enseigne les éléments de base de la révélation de Dieu. Verset 12, vous en êtes arrivés à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Verset 13, celui qui est au lait est inexpérimenté dans la parole de justice. Verset 14, en raison de leur expérience, ils ont le jugement exercé à discerner ce qui est bien et ce qui est mal, en opposition avec ceux qui, justement, sont inexpérimentés. Ces chrétiens sont nonchalants, dit un paresseux. Non qu'il l'ait toujours été, mais que leur volonté semble être au ralenti complet. Leur premier élan semblait très fort, pourtant maintenant ils ne se contentent plus que de peu. En plus d'être des gros fainéants, j'ai dit, leur développement de leur vie chrétienne ne serait pas assimilé à une Porsche 911 biturbo. Au lieu d'être des croyants disciples équipés par une instruction équilibrée, acquise par une relation personnelle avec Dieu, ils sont au point mort. La Porsche n'a pas démarré. Ils regardent toujours passer les autres à côté d'eux. Ne nous faisons aucune illusion. Le problème de ces croyants de l'époque est peut-être aussi le problème de certains croyants aujourd'hui. Ne croyons pas que nos églises n'ont pas ce même problème. Peut-être que certains croyants sont très faibles dans la foi, nonchalants, lents à comprendre, toujours avec un besoin de revenir aux éléments de base de la foi, besoin d'être enseigné plutôt que d'enseigner, en gros inexpérimenté dans leur jugement pour discerner le bien et le mal. L'auteur distingue deux groupes, ceux qui ont le jugement exercé pour discerner le bien et le mal et ceux qui sont inexpérimentés dans la parole de justice. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire, Samuel ? Bien, pour illustrer cette capacité à discerner le bien et le mal, j'aimerais vous citer ce que nous avons évoqué lors de notre débat sur la sexualité avec les jeunes, et j'aimerais vous citer une parole de Jésus qui, pour moi, éclaire assez bien cet exercice du discernement. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras pas d'adultère ». Mais moi, je vous dis que tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça a à voir ? Jésus nous montre une nouvelle fois le chemin. Il nous montre que le discernement ne se trouve pas dans nos actes positifs d'adultère, mais dans nos pensées et dans notre combat contre la convoitise. Nous sommes ce matin invités à considérer notre aptitude au combat intérieur, un combat caché contre nos pensées, contre la tentation qui est présente dans nos cœurs et qui est le reliquat de notre ancienne manière de vivre. C'est cela le jugement exercé à discerner le bien et le mal. Je me rappellerai longtemps lors d'une rencontre avec mon JDC, je ne sais pas si vous savez ce que c'est le JDC, mais les groupes de croissance, donc c'est des groupes où on se réunit une fois par semaine pour partager ce qu'on a lu et confesser les péchés les uns aux autres et prier pour nos amis qui ne sont pas chrétiens. Nous étions à la phase confession et je me suis mis à réfléchir 10 secondes, vous savez, oui, ça arrive. Et je suis arrivé à la conclusion que je n'avais pas péché cette semaine et que je n'avais rien à confesser. J'ai honte de vous raconter cela, car cette conclusion démontrait mon incapacité à discerner le bien et le mal dans ma vie, à discerner dans mon inquiétude un péché, à discerner dans ma volonté et soif de posséder un péché, dans mon orgueil un péché, dans mon impatience un péché. Ayant tellement extériorisé le péché dans des actes que nous pourrions faire, nous avons perdu l'enjeu et le lieu de notre combat, à savoir dans nos pensées et dans notre cœur. Nos auditeurs étaient d'origine juive et l'auteur veut les inviter à laisser les enseignements qu'ils connaissaient déjà, toutes ces doctrines évoquées, le renoncement aux œuvres mortes, la foi en Dieu, les doctrines concernant les baptêmes, l'imposition des mains, la résurrection des morts, le jugement éternel, n'ont rien de doctrine accessoire ou faible. Mais c'est juste que ces réalités pour eux étaient déjà connues dans le judaïsme et n'avaient rien de spécifiquement chrétien. Il veut donc les inviter à laisser les enseignements de base élémentaires de leur foi qui étaient présentes dans leur religion initiale pour se concentrer sur un enseignement approfondi de leur foi chrétienne qui, lui, au contraire, marque une frontière de démarcation entre leur ancienne religion et leur nouvelle. Mais avant cela, il veut surtout les mettre en garde. Et je vous invite à relire avec moi, verset 4 du chapitre 6. En effet, ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté au don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et aux puissances du monde à venir, et qui pourtant sont tombés, il est impossible de les amener une nouvelle fois à changer d'attitude, puisqu'ils crucifient de nouveau pour eux-mêmes le Fils de Dieu et le déshonorent publiquement. Lorsqu'une terre arrosée de pluies fréquentes produit des plantes utiles à ceux pour qui elle est cultivée, elle reçoit de Dieu sa part de bénédiction. Mais si elle produit des ronces et des charbons, elle est jugée sans valeur, bien près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Sans doute l'un des textes les plus redoutables de toute la parole, qui a suscité des vifs débats passionnés, plongeant certaines dans la plus grande angoisse. L'auteur ne va pas par quatre chemins. Il est impossible de les amener à une nouvelle foi, à changer d'attitude. Cette impossibilité n'est pas relativisée, elle relève un caractère absolu. Le « en effet » relève que la négligence, la nonchalance et le faible discernement pouvaient avoir des conséquences graves. Les quatre temps des verbes, aoristes ponctuels, tracent le contour du passé sous différents aspects. Et ces temps caractérisent des événements passés qui ont eu lieu et qui se rattachent au tout début de la vie chrétienne. Dieu ne brandit pas des mises en garde pour rien. Non, bien au contraire, sa mise en garde est réelle et sérieuse et ne doit du tout être relativisée. Nous devons y croire. Sa parole, c'est quelque part Dieu lui-même qui nous le dit. Notre théologie peut nous donner des certitudes. Les enseignements que nous avons reçus de par le passé peuvent nous donner des certitudes. Mais ces chrétiens avaient une expérience qui leur avait donné des certitudes. Mais je sais aussi que devant ce texte, notre théologie, ma théologie, bloque. Et je vous invite ce matin à la laisser devant le texte et à reconsidérer à nouveau ce texte, car il nous heurte. Mais doit-on pour autant effacer celui-ci de nos Bibles ou l'arracher, ou plus subtilement encore utiliser, comme dit un de mes bons amis, le pied de biche pour faire entrer nos vérités dans la vérité que Dieu veut nous enseigner, car celle-ci ne rentre pas bien dans notre conception. Nous allons essayer ce matin, et je dis bien nous allons essayer, de ne pas utiliser le pied de biche. Considérons d'abord ce que Dieu désire toujours nous mettre en garde contre la chute, c'est ce qu'il dit là. Une chute qui grave, qui mène à la perdition, à l'enfer. Décrivons avec précision l'expérience vécue par ces chrétiens, entre guillemets, en proie à une chute qui mène à la mort, une chute qui mène à l'enfer, je le répète. Il semble avoir connu, premier point, une illumination, communication de lumière par la prédication de l'évangile. Ils ont goûté au don céleste. Le fait qu'ils aient goûté n'est pas du tout une expérience artificielle. Hein. Au contraire, il s'agit de faire l'expérience d'une réalité sans aucune restriction. Si vous n'en êtes pas sûr, lisez Hébreux 2,9 qui dit à propos de Jésus qu'il a goûté la mort pour tous, version Darby. Le don céleste est l'expérience de la grâce dispensé en Jésus-Christ. Mais nous ne savons pas, nous ne pouvons pas aller plus loin. Eu part à l'Esprit-Saint, une chose est certaine, est que les effets ont été manifestés dans un premier temps dans sa vie. Goûter la bonne parole de Dieu, ils ont été touchés par l'Évangile. Et il s'agit d'une expérience heureuse que Dieu leur a communiquée. Ils ont goûté aux forces du monde à venir. quelque part, était sensible au combat spirituel. Mais on ne peut pas aller encore plus loin. Cette description des premiers pas de la marche par la foi qualifie, montre une expérience chrétienne initiale que l'on pourrait dire normale, ordinaire. Rien de plus, rien de moins. Pourtant, le drame est là, saisissant. Ils sont tombés. Effet du passé. C'est un acte précis de rejet de la foi. Cette chute est irrémédiable, puisqu'il est désormais impossible de les amener une nouvelle fois à la repentance. La repentance est hors d'atteinte, et le chemin vers la conversion, retour vers Dieu, est impossible. Deux conséquences, nous dit le texte, et répercussions de la chute sont signalées. Ils crucifient pour leur compte le Fils de Dieu et l'exposent aux injures et aux moqueries. C'est un coup porté au Christ lui-même et à son nom devant les hommes. Une image pour montrer l'horreur de la scène, comme une redite de la scène que nous avons lue tout à l'heure de la Passion. La souffrance et la honte qui ont accompagné se trouvent une ressemblance terrible dans le reniement public et déterminé de ces personnes. En quelque part, une reproduction caricaturale du calvaire. Mais notre passage ne s'arrête pas là. Et nous devons prendre l'illustration qui clôt en quelque sorte cet avertissement. L'illustration des versets 7 et 8 est très intéressante. Deux terres produisent deux produits différents. Dans la première, on assiste à un cycle heureux, des pluies fréquentes du ciel, le labeur du cultivateur et une récolte qui profite au propriétaire. Ce processus témoigne de la bénédiction de Dieu. Les conditions semblent identiques pour la deuxième terre, pourtant celle-ci ne produit que des ronces et des chardons. La conséquence est lourde, c'est la malédiction et le châtiment matérialisé par le feu. L'expression « bien près » dans certaines versions caractérise la temporalité et non l'éventualité. En résumé, ce n'est pas une conditionnalité, c'est juste le temps. Elle va être jetée au feu. Il faut l'avouer, cette chute est encore radicale. Elle ne laisse plus d'issue favorable, elle nous heurte. Elle nous trouble. L'impossibilité porte sur une nouvelle repentance. Sans doute une remarque éclairante sur l'expérience vécue par ces chrétiens, c'est que le terme régénération n'apparaît pas dans ce texte. Et il est préférable, nous dit un théologien, de ne pas l'y introduire. En effet, la régénération, création d'une vie nouvelle, transplantation cardiaque divine, la nouvelle naissance, ou la naissance d'en haut, comme disait Jésus, est strictement œuvre divine. Seul Dieu a le pouvoir de faire cette opération chirurgicale au sein de sa création. Nous sommes obligés de montrer que ces belles expressions, qui dans les versets 4 et 5 décrivent les privilèges associés à la découverte de l'Évangile, sont situées du côté de ce que l'homme reçoit, éprouve et manifeste. Avec toutes les ambiguïtés de l'humanité. Les expériences sont parfois bien trompeuses, et notre perception des choses aussi. Cette description est en quelque sorte une description de l'expérience vécue par l'homme, et non de la description de l'œuvre de Dieu dans la vie d'un croyant. Et c'est là sans doute le nœud du problème. La repentance, considérée comme un événement que l'on pourrait discerner pour les autres et pour soi-même, participe à la même difficulté. Comment juger de la réalité de la conversion d'une personne ? Nous ne sommes pas Dieu, même si nous pouvons voir des indices de celle-ci. Qui sommes-nous ? Malgré la dureté de ce texte, celui-ci n'en demeure pas moins isolé. Jésus évoque déjà le péché contre le Saint-Esprit. L'Écriture tout entière nous parle du triomphe de la grâce, laissant toutefois entendre que le péché reste une affaire très sérieuse et que certaines limites connues de Dieu ne peuvent être franchies impunément. La parole du semeur relève de nombreuses similitudes avec notre texte. Mais que faire avec ce passage ? Doit-il nous déchirer et nous faire passer de la joie au désespoir, selon le temps de la journée, suivant qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, suivant le péché que nous avons dans nos cœurs. Certainement pas, pourrait dire l'apôtre Paul. Le passage qui clôt cette portion de texte ne le permet pas et nous invite à une assurance de la foi, une espérance bien placée. Je ne peux clore cette première partie de ce passage sans évoquer certaines paroles qui cristallisent des siècles d'opposition. Nous ne voulons pas tomber dans des pièges de type à l'emporte-pièf que l'on banalise sans réflexion. Que veut-on affirmer quand on parle de perte du salut? Qu'entend-on par salut? Une foi un jour proclamée? Une conviction ressentie? Un accueil par l'Église? Ou s'agit-il vraiment du salut dans son sens le plus fort? Délivrance totale, bénédiction plénière jusqu'à notre condition après la mort. L'ambiguïté n'est pas la moindre lorsqu'on brandit la doctrine de la persévérance des saints. Les saints font-ils ce que Dieu a aimé d'avance, guidés, gardés, qu'il connaît par leur nom, ou seulement les hommes que l'Église désigne comme tels, ou qui se considèrent eux-mêmes comme tels? La persévérance de ces derniers n'est pas garantie. Comme toujours, les véritables saints sont ceux qui persévéreront jusqu'au bout. Piper, que l'on ne peut pas taxer de croire en un père du salut, puisque celui-ci est sans doute l'un des plus grands défenseurs de la ferme assurance que nous possédons en Dieu, a écrit à propos du salut. Nous avons été sauvés, Éphésiens 2.8, on l'a lu tout à l'heure. Nous sommes sauvés, 1 Corinthiens 1.18. Nous serons sauvés, Romains 13, 1 Pierre 1.5. Le salut n'est pas une étape de la vie chrétienne, nous dit Piper. C'est la vie chrétienne et la sanctification y joue un rôle. S'imaginer que le salut est un premier stade de la vie chrétienne, alors que la sanctification, ou on peut le dire autrement, la sainteté ou l'obéissance en serait le second, c'est commettre une grossière erreur. Le salut est le grand terme biblique qui décrit toute l'œuvre salvatrice, passée, présente et future de Christ pour nous. La question n'est donc plus de savoir si on peut perdre le salut, mais si nous avons été régénérés, nés à une vie nouvelle et éternelle, et non à une expérience humaine, n'ayant aucune puissance pour le salut. Car si l'œuvre de Dieu a produit son œuvre en nous, par cette transplantation cardiaque, nous sommes certains qu'il produira en nous le vouloir et le faire pour l'amener jusqu'au bout. Mais que faire avec cet avertissement ce matin? Je pense que nous ne pouvons pas le prendre à la légère et faire comme si de rien n'était. Non, la vie chrétienne n'est pas seulement notre passé. On voit comment l'expérience peut parfois nous tromper et nous amener à chuter de manière totale. Non, la vie chrétienne, c'est aussi notre futur. Et la course vers la maturité spirituelle, une course pour prendre plaisir en Dieu, dirait Piper. Une course pour la pureté intérieure qui nous poussera toujours en avant et nous gardera de cette chute irrémédiable dont nous parle l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Et donc Christ et Dieu nous gardera aussi. Mais ces avertissements ne peuvent être isolés de leur contexte et notamment du fait que les promesses de Dieu et Dieu lui-même sont là pour nous encourager et nous assurer de la bonne issue de nos vies. Verset 9, je vous invite à continuer avec moi au verset 9. Même si nous parlons ainsi, bien-aimés, nous sommes convaincus qu'en ce qui vous concerne, vous avez la meilleure part, celle qui est favorable au salut. En effet, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre. Œuvre est le travail de votre amour. Vous avez démontré votre amour pour son nom par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore aux saints. Et nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Ainsi, vous ne vous relâcherez pas, mais vous imiterez ceux qui, par la foi et la patience, reçoivent l'héritage promis. Je peux avoir un peu d'eau, Christophe, s'il te plaît. Un changement de ton apparaît dans notre texte. Même si la mise en garde, et on voit au verset 11, sous une forme plus adoucie, est toujours encore présente. Malgré les propos menaçants qu'il vient de proférer, l'auteur a l'intime conviction que des choses meilleurs les attendent pour le salut. Même si ces paroles sont encourageantes, nous ne sommes pas en présence d'un verdict prématuré. Merci beaucoup. Même si ces paroles sont encourageantes, elles ne sont pas pour autant un verdict prématuré sur le sort ultime des destinataires. Mais nous voyons se manifester l'assurance réconfortante qu'ils sont en bonne voie. Dieu n'est pas injuste pour oublier l'œuvre de ses enfants, nous dit le texte. Cette œuvre manifeste avec force l'intériorisation de la relation avec Dieu. Et comment l'amour intérieur orienté vers Dieu qui voit sa manifestation concrète par le service. Loin des œuvres à compter à leur crédit pour leur salut, ce sont des fruits de justice qui manifestent leur vie par la grâce imméritée de Dieu, comme des œuvres, comme produits de leur amour pour Dieu. Toutefois, le langage de la persévérance n'a pas disparu. Et le relâchement n'a pas sa place, car le danger menace effectivement. L'important est la persévérance jusqu'à la fin. La direction est claire. L'épanouissement dans l'espérance devient l'expression de notre condition de chrétien. À ce titre-là, elle joue un rôle comparable à celui de la foi. Espérance et foi sont d'ailleurs très proches. La foi, nous dira l'Épître aux Hébreux, un peu plus loin, est l'assurance des choses que l'on espère. Dans un but précis, celui d'être non pas nonchalant, mais imitateur de ceux qui, par la foi et la persévérance, reçoivent l'héritage promis. Nous regardons comme dans un miroir passé les champions de Dieu de l'Ancien Testament, dont une liste nous sera décrite au chapitre 11. Mais sans doute l'un des meilleurs carburants de notre foi et le plus grand garde-fou contre le découragement sont les promesses de Dieu et Dieu lui-même. Je vous invite à continuer avec moi la lecture du verset 13 au verset 20. Lorsque Dieu a fait la promesse à Abraham, comme il ne pouvait pas prêter serment par plus grand que lui, il l'a juré par lui-même, en disant « Certainement, je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance. » C'est ainsi qu'après une attente patiente, Abraham a obtenu ce qui lui avait été promis. Or, les hommes jurent par plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à toute contestation. C'est pourquoi Dieu voulant montrer plus clairement encore aux héritiers de la promesse le caractère irrévocable de sa décision, est intervenu par un serment. Ainsi, par deux actes irrévocables dans lesquels il est impossible que Dieu mente, nous sommes puissamment encouragés, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre solide et sûre de l'âme. Elle pénètre derrière le voile, là où Jésus, établi grand prêtre pour toujours, à la manière de Melchisédek, est entré pour nous en précurseur. Cette conclusion voit le déploiement complet de l'exhortation qui a commencé au verset 11 du chapitre 5 et qui s'achève par ses promesses divines, accompagnées ou validées par serment. La description est claire, Dieu a fait une promesse à Abraham et celui-ci, et lui a assuré la bénédiction et une descendance nombreuse. Abraham, nous dit le texte, après une attente patiente, a obtenu ce que Dieu lui avait promis. La place de l'épisode du sacrifice d'Isaac dans l'Épître aux Hébreux est sans doute le centre de cette promesse. En effet, l'attente patiente n'est pas forcément les 25 années d'attente de la naissance du Fils, même si cette éventualité n'est pas totalement à exclure. Mais l'attente patiente peut être mise aussi en évidence par des épisodes courts, comme celui du sacrifice d'Isaac. Plus que la durée, le sentiment de durée qui se relie étroitement à l'intensité du vécu et de l'incompréhension d'Abraham. Entre l'ordre incompréhensible, prends ton fils et offre-le en holocauste et la résurrection d'Isaac, les quelques jours du calendrier ont eu sans nul doute le poids de l'éternité. D'autant que l'exigence divine semblait annuler les promesses antérieures. La persévérance en cette épreuve était le prolongement et le couronnement de la foi patiente qu'il avait démontrée. Abraham obtint donc ce qu'il avait, ce qui lui était promis. Mais ce n'est pas tout. Dieu veut montrer de manière éclatante que ses promesses, pour nous ses héritiers, sont véritables. Et pour cela, il intervient par serment. Un serment est un terme juridique et il pourrait être assimilé à la caution. Comme pour garantir la certitude des engagements dans un contrat de location, les propriétaires demandent aux futurs locataires un cautionnaire, une personne qui pourrait se porter garant des dires du futur locataire et des engagements. Or, il intervient à la fois comme garant et comme partie prenante à la transaction. Et de la même manière, Dieu nous promet, mais ce n'est pas tout, par ferment, il cautionne ses promesses. Il nous incite à les accueillir avec un cœur rempli de reconnaissance. Un truc de ouf. Ainsi, par deux actes, nous dit le texte, la promesse et le serment, il est impossible que Dieu mente. Ainsi, ce matin, nous sommes invités à une deuxième chose. Croire dans les promesses et le serment de Dieu pour notre vie. Sans doute le plus grand garde-fou contre le découragement et le désespoir. Même si nous acceptons l'idée, notre cœur résiste depuis la chute d'Adam et Ève contre cela. Les promesses divines sont sûres. L'encouragement est puissant. Les croyants ont cherché refuge, un refuge qui ne déçoit pas. Ils saisissent maintenant fermement l'espérance, laquelle est comme une ancre, gage de sécurité. Pénétrant dans ce lieu inébranlable, nous dit le ciel, qu'est le ciel où Jésus y est entré en tant que souverain sacrificateur. Jésus est donc ce précurseur, celui qui court devant et que c'est en notre faveur qu'il a frayé un parcours, un prix immense que nous découvrons ultérieurement. Jésus est donc aussi l'objet de notre espérance et de nos promesses, et celui qui porte à son comble toutes les promesses de Dieu. Non seulement Dieu nous a fait des promesses, mais Jésus est venu à notre rencontre pour nous devancer et nous encourager à tenir ferme. Nous résistons à croire que Dieu peut et va faire ce qu'il a dit. Nos enfants ont une totale confiance, mes enfants ont une totale confiance dans mes paroles. Et nous n'avons pas besoin de leur répéter les choses pour que ceux-ci les considèrent comme vraies et dignes de la plus grande attention. Mais pourtant nous, adultes, nous sommes dans le plus grand combat de nos vies. Le combat de la foi, le combat contre notre incrédulité, le combat pour accepter les promesses de Dieu. Lors de ma dernière présidence de la table du Seigneur, je vous avais cité cette jeune fille qui avait eu des relations sexuelles avant le mariage et qui depuis plus de 5 ans n'acceptait pas le pardon de Dieu. Pourtant, elle avait demandé sans arrêt pendant 5 ans le pardon à Dieu. Le problème n'était pas dans la promesse du pardon, mais dans l'incapacité de cette jeune fille de croire que Dieu puisse la pardonner. Nous devons combattre nos pensées, nous devons lutter dans nos cœurs, nous devons utiliser la seule arme offensive dans ce combat contre l'incrédulité, à savoir l'épée de sa parole. Nous devons faire vivre ses promesses dans nos pensées, les ruminer constamment, les apprendre par cœur, les mettre sur notre ordinateur, là où nous travaillons, sur notre table de chevet, en face dans notre cuisine, pour qu'elles finissent par être notre première façon de penser, pour qu'elles finissent par faire leur demeure en nous. Piper a encore écrit à propos de l'inquiétude et j'aimerais terminer par ça. Quand je m'inquiète à propos d'un nouveau projet risqué ou d'une rencontre délicate, je combats l'incrédulité par une des promesses de prédilection que j'ai. Ne sois pas effrayé, car je suis avec toi. Ne sois pas angoissé, car moi je suis ton Dieu. Je t'affermis, je viens à ton secours. Je te soutiens de mon bras droit qui fait justice. Ésaïe 41. Quand je m'inquiète à propos de mon ministère, craignant qu'il soit inutile et vide de sens, je combats l'incrédulité en m'appuyant sur les promesses d'Ésaïe 55. On dit, il en sera de même de la parole que j'ai prononcée. Elle ne reviendra jamais vers moi à vide, sans avoir accompli ce que je dirais et sans avoir atteint le but que je lui ai fixé. Quand je crains de ne pas avoir la force d'accomplir mon travail, je combats l'incrédulité en me remettant à cette promesse du Christ. Ma grâce te suffit et c'est dans ma faiblesse que ma puissance manifeste. Quand je me fais du souci à propos des décisions qu'il faut prendre pour l'avenir, je combats l'incrédulité par cette promesse. Je vais détruire et t'indiquer le chemin que tu devras emprunter. Je serai ton conseiller. Mes yeux veilleront sur toi. Quand je me fais du souci à propos du bien-être de ce que j'aime, je combats l'incrédulité en m'appuyant sur la promesse que si moi qui suis mauvais, Je sais donner de bonnes choses à mes enfants, à combien plus forte raison mon Père Céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ? Quand j'ai des soucis de santé, je combats l'incrédulité par cette promesse. Le juste doit passer par beaucoup de souffrances, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Quand j'ai peur de mourir, je combats l'incrédulité par cette promesse. Aucun de nous ne vit pour lui-même et aucun ne meurt pour lui-même. Si nous vivons pour le Seigneur et si nous mourons pour le Seigneur. Ainsi que nous vivions ou que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. En effet, le Christ est mort et il est revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. Romains 14. Quand j'angoisse en pensant que je pourrais sombrer au niveau spirituel et me détourner de Dieu comme c'était le cas de ces personnes, je combats l'incrédulité par ses promesses. Celui qui a commencé en vous son œuvre bonne la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ. Philippiens 1:6. Et Jésus est en mesure de sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur auprès de Dieu. Voilà l'hygiène de vie que j'apprends à pratiquer aujourd'hui, encore à 60 ans, en espérant que vous l'adopterez aussi, nous dit Piper. Dieu ne manie aucune mise en garde en vain et ne fait aucune promesse en l'air. Ses mises en garde sont certaines et dignes de la plus grande attention, de même que ses promesses. La chute sera présente pour ceux qui auront délaissé l'exercice de leur maturité et abandonné leur course. D'autres seront peut-être en proie à des doutes, à des souffrances, pourtant au-delà de l'angoisse de ces avertissements. Nous pouvons avoir les yeux fixés sur les promesses de Dieu et sur Dieu lui-même, le seul qui amène notre foi à son aboutissement. Voilà le combat de notre vie. Voilà le combat contre l'incrédulité, notre manque de foi, notre incapacité de croire en ce que Dieu a dit qu'il fera au travers de sa parole. C'est notre combat. Cette prise de conscience ce matin, Dieu nous la demande pour nous, pour que nous soyons assurés d'un véritable salut. Un salut qui nous pousse non pas à regarder en arrière, mais à courir pour aller de l'avant, pour remporter la victoire du prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Père éternel, merci de ta parole et merci parce que tu vois que souvent, parfois, nous appuyons sur des expériences et tu vois parfois que certains chrétiens, nous l'avons lu, se sont appuyés sur une expérience qui avait tout l'air du salut mais qui ne l'était pas. Père éternel, nous sommes invités ce matin à courir le but, à prendre plaisir en toi, à avoir cette joie de pouvoir fonder nos vies sur tes promesses, de pouvoir les saisir pour nos vies et de combattre constamment contre notre incapacité à les croire, à les accepter. Merci parce que tes promesses sont véridiques, véritables, elles sont certaines. Et nous pouvons nous appuyer dessus pour notre assurance. Donne-nous de pouvoir les accepter, les incarner, les intégrer. Merci Père éternel de ce matin de nous avoir rappelé cet avertissement et comme un garde-fou pour nous. Merci de nous avoir aussi rappelé tes promesses pour nous assurer d'un salut éternel.